Merci à vous, merci à tous et toutes d'être présents et présentes très largement. En réalité, c'est plutôt moi du coup qui vous remercie parce qu'effectivement, de voir autant de monde, c'est vraiment revigorant et ça regonfle un peu les pneus en termes de morale. Parce que face au fascisme ou face à la montée du fascisme ou la montée des forces d'extrême droite, on va y revenir, face à des politiques de plus en plus autoritaires, militaristes, racistes, mais aussi face à l'exploitation, on sait bien que notre force, c'est la force du nombre. C'est notre capacité d'organisation collective, c'est notre détermination. Donc voilà, je dois dire que de voir autant de monde, c'est à un stage syndical sur ces questions, c'est extrêmement réconfortant en quelque sorte. Et je dois dire même que j'ai jamais vu autant de monde dans un stage syndical. Donc bravo aux militants et militantes qui l'ont organisé. Et pourtant, j'en fais pas mal des stages syndicaux sur l'extrême droite. Je dois dire, ça bat tous les records là. Et puis ailleurs, en plus, c'est dans le cadre d'un front intersyndical dans lequel il y a mon organisation syndicale, donc c'est très bien, je dirais pas laquelle. Mais c'est très fondamental, évidemment, face au fascisme, parce que personne ne peut gagner seul face au fascisme. S'il devait y avoir juste une réflexion, mais on y reviendra tout à l'heure, sur l'entre-deux-guerres, c'est précisément que tous ceux et toutes celles qui ont prétendu gagner tout seul ou vaincre tout seul le fascisme, eh bien, malheureusement, ont largement échoué, ont échoué dans les grandes largeurs. Donc, et c'est encore plus le cas aujourd'hui où nos organisations sont peut-être moins fortes qu'elles ne l'étaient, enfin, les organisations du mouvement ouvrier sont moins fortes qu'elles ne l'étaient dans l'entre-deux-guerres, et aucune organisation, ni syndicale, ni politique, ni associative, a fortiori, n'a la surface sociale, militante, etc. pour prétendre toute seule, en quelque sorte, affronter le danger. Donc on a, en quelque sorte, on est condamné à l'unité. Et en soi, c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on peut et qu'on va gagner. Voilà, et puis un dernier mot pour la librairie, parce que je pense que c'est très important, les librairies, au-delà de tout l'écosystème associé aux librairies, les maisons d'édition indépendantes, les médias indépendants, tout ce qui fait vivre des idées critiques, des idées d'émancipation, des idées qui vont à rebours du débat médiatique, ou plutôt ce qui tient lieu de débat médiatique, qui n'en est pas un en réalité. C'est vraiment fondamental, je crois, de faire vivre tout cet écosystème, d'acheter effectivement quand on le peut, autant qu'on peut, en quelque sorte, des livres dans ces librairies indépendantes plutôt que sur Amazon ou à la Fnac, Cultura, etc. De faire vivre ces espaces-là qui font, faire vivre les médias indépendants sur notamment les médias web, mais pas que d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi souvent en papier encore, et les maisons d'édition indépendantes à une époque où on sait Bolloré, c'est pas que un empire médiatique, c'est aussi un empire en matière de maisons d'édition et en matière de distribution. Diffusion, vous avez, je pense, tous cette expérience d'aller en gare et de voir les magasins Hachette dans lesquels on trouve évidemment tous les best-sellers de l'extrême droite aujourd'hui publiés dans des maisons d'édition tout à fait installées du genre Fayard, et on va trouver Zemmour, Bardella ou Philippe de Villiers par exemple. Voilà. Alors, donc désolé pour ces petits mots d'introduction un peu longs. Je vais aborder tout de suite la question. Alors en fait, effectivement, on a divisé un peu en deux moments la conférence débat de ce matin, avec un premier moment sur en gros le diagnostic en quelque sorte, et le deuxième moment plutôt sur les remèdes, si on fait la métaphore un peu médicale, à quoi on fait face, quoi, à quel type de gangrène en quelque sorte on pourrait dire, hein. On a parfois utilisé cette métaphore historiquement pour parler du fascisme, et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être dans un deuxième temps du coup, et je ferai une introduction dans les deux cas, et puis après je pense qu'il y aura, voilà, il y a un moment d'échange, de discussion qui est évidemment très très important. Je voudrais commencer mon introduction sur en fait pourquoi la question du fascisme est redevenue en quelque sorte de manière assez, je crois, évidente. Il suffit de voir ce qui nous fait discuter, ce qui nous fait d'ailleurs nous rencontrer aujourd'hui, c'est pourquoi c'est redevenu une question importante pour nous. Alors il y a au moins deux raisons évidentes, je crois, mais ça va mieux en le disant, et ça va permettre d'entrer un peu dans le vif du sujet, et ça va me permettre de dire un certain nombre de choses. La première raison, et je vais quand même pas mal développer celle-ci, c'est évidemment la progression politique, notamment électorale, mais aussi dans certains pays, peut-être un peu moins en France que dans certains autres pays, mais la progression militante aussi des extrêmes droites, leur capacité en quelque sorte de projection dans la rue. Petit premier exemple que je donne en passant, la Grande-Bretagne a connu ces dernières années deux événements qui m'ont semblé extrêmement frappants. D'abord, il y a eu la plus grande manifestation fasciste, et j'insiste sur le mot fasciste, pas simplement d'une droite un peu réactionnaire, conservatrice, fasciste, animée par quelqu'un qui s'appelle Tommy Robinson, qui est quelqu'un qui a fait la prison, qui est une espèce d'ancien hooligan identitaire, qui avait créé l'English Defence League, qui est en fait l'équivalent des identitaires, pour faire vite, en Angleterre, qui est un groupe violemment islamophobe, etc., qui a mis 150 000 personnes dans la rue, c'est la plus grande manifestation fasciste de l'histoire britannique. Hein. Même les partis fascistes de l'entre-deux-guerres en Grande-Bretagne, qui n'étaient pas du tout négligeables autour de Mosley, n'avaient jamais réuni autant de monde. C'était en septembre 2025. L'été 2024, il y avait eu dans une vingtaine de villes en Grande-Bretagne des émeutes racistes d'ampleur tout à fait considérable contre des hôtels accueillant des réfugiés, contre des commerces tenus par des immigrés, contre des mosquées. Donc je signale juste ces deux aspects-là parce que c'est pas très loin, c'est la Grande-Bretagne, c'est pas l'Inde où pour le coup il y a par exemple un mouvement suprémaciste hindouiste de type fasciste, hein, qui s'est d'ailleurs construit sur le modèle fasciste dès l'entre-deux-guerres, hein, qui est actuellement au pouvoir depuis assez longtemps. Donc c'est pas l'Inde qui nous semble peut-être un peu loin, c'est la Grande-Bretagne, ok, avec une extrême droite de rue et par ailleurs aussi une extrême droite électorale institutionnelle qui très certainement va gagner les prochaines élections en Grande-Bretagne autour de Nigel Farage et de son parti Reform UK. Donc la première la raison que je voulais évoquer, c'est donc la progression des extrêmes droites, progression militante dans la rue. Progression également qui se manifeste à travers une explosion des violences d'extrême droite. Alors, violence sous différentes formes, hein, violence armée. À l'échelle mondiale, c'est tout à fait considérable l'accroissement au cours des 15 dernières années du nombre de morts associés à des attentats fascistes, à des attaques armées fascistes. Donc, Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande tuant 50 musulmans et musulmanes, Andrés Breivik en 2011 en Norvège tuant, je crois, presque 80 jeunes militants et militantes socialistes. Et quantité d'attentats visant des mosquées, des synagogues, des boîtes LGBT, des commerces fréquentés par des Afro-Américains, donc aux États-Unis où les armes, on sait bien, circulent énormément et où il y a régulièrement des attaques menées par des gens qui ne sont pas des fous, qui sont ceux que je mentionne là, Breivik, Tarrant ou d'autres, des militants d'extrême droite. Qui se reconnaissent dans un agenda, dans une idéologie nationaliste, suprémaciste, raciste, islamophobe, antisémite, homophobe, etc. Bon. Donc voilà, donc je ne vais pas trop y insister, mais c'est quand même un point important, c'est-à-dire que l'extrême droite, on focalise souvent sur la scène électorale, mais il y a aussi une dimension de rue, une dimension violente, et des violences qui peuvent être plus, en quelque sorte, ordinaires, mais qui peuvent être des formes de harcèlement, donc là, pour prendre le cas français, avec des groupuscules qui sont petits, hein, fascistes, néofascistes, nationalistes révolutionnaires comme ils s'appellent eux-mêmes, c'est en réalité des néo-nazis, hein, et qui vont agresser, harceler des militants et militantes, étudiantes, syndicaux, féministes, antiracistes, etc., que ce soit à Clermont-Ferrand, à Aix-en-Provence, à Lyon, à Angers, etc., à Lorient, à Brest, etc., etc. Bon, un peu moins dans le coin, je crois, mais je parle sous votre contrôle. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Et évidemment, la dimension quand même, il y a la dimension électorale, avec des extrêmes droites qui progressent partout, y compris en Europe, avec des forces d'extrême droite qui parviennent au pouvoir, dans le cadre généralement de coalitions avec la droite, entre parenthèses, ces forces qui sont terriblement anti-système, qui sont vraiment pour un autre, qui sont contre les élites, etc., finissent toujours par gouverner avec les principales forces de la droite conservatrice et libérale, que ce soit dans l'entre-deux-guerres ou aujourd'hui. Hein, on a ce type de coalition droite-extrême droite aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède et évidemment en Italie. L'Italie présentant un cas un peu singulier au sens où c'est la première fois depuis l'après-guerre qu'il y a une coalition dans laquelle l'extrême droite est présente, mais au pouvoir, mais l'extrême droite est la force dominante dans cette coalition. En Italie, l'extrême droite, donc Meloni, hein, héritière directement du néofascisme d'après-guerre, c'est-à-dire du parti qui s'était créé avec les rebuts du régime de Mussolini, qui avait constitué un parti à l'époque qui s'appelait le MSI, le Mouvement Social Italien, qui voulait dire aussi, c'était un nom de code pour dire Mussolini sempre immortale, qui voulait dire Mussolini toujours immortel. Bon. Donc voilà, donc on a des donc tout quand de nombreux cas dans lesquels d'ailleurs je dis en passant hein, c'est en Europe hein, notamment où les forces d'extrême droite actuellement dominantes électoralement sont ou très fortes électoralement sont directement héritières du fascisme historique ou de mouvements qui étaient explicitement fascistes, néo-fascistes, voire néo-nazis. C'est le cas par exemple du parti suédois des démocrates de Suède qui a été créé au départ comme une organisation néo-nazie dans les années 80, qui a eu une stratégie comme le RN d'ailleurs de dédiabolisation, de respectabilisation et qui aujourd'hui est intégré à une coalition droite-extrême droite au pouvoir dans le pays. Je l'ai dit, le mouvement de Meloni Fratelli d'Italia a été héritier directement du néo-fascisme italien d'après-guerre. Le RN est un parti qui a été créé en 1972, alors ils ont changé de nom en 2018, il s'appelle le RN aujourd'hui, il s'appelait le Front National auparavant, évidemment tout le monde le sait, mais en 72 ils sont créés par tous les vestiges du fascisme français et différentes générations et différentes souches en quelque sorte du fascisme français, la première souche étant les collaborationnistes, des gens qui ont, comme le numéro 2 du FN au début, Victor Barthélémy, le lieutenant de Jean-Marie Le Pen au début du parti, qui était un des organisateurs de la rave du Veldiv. Alors moi ça me fait m'étrangler chaque année au moment des commémorations quand les dirigeants du FN dans leur stratégie de respectabilisation, normalisation, dédiabolisation commémorent la rave du Veldiv. Bon, voilà, donc on a cette première souche, le personnage qui avait déposé les statuts du FN en préfecture en 72, c'était quelqu'un qui avait été membre de la Waffen-SS, un Bousquet. Pas le créateur de la police nationale française sous Vichy, l'autre Bousquet. Bon, les deux ne sont pas très appréciables hein, d'ailleurs. Donc il y a cette souche, et il y avait la souche Algérie française, enfin terroriste d'extrême droite. Je rappelle que l'OAS, l'organisation armée secrète qui luttait pour le maintien de la colonisation française en Algérie, et l'organisation terroriste qui a commis de très très loin le plus d'attentats dans l'histoire de France, hein, il me semble entre 2000 et 3000 morts liés à l'OAS, et on a quantité évidemment des premiers dirigeants du Front National et pendant assez longtemps hein, qui avaient été des membres actifs ou des sympathisants actifs de ce mouvement. Et puis l'autre souche, c'était en gros les militants néofascistes trop tôt, nés trop tard pour avoir collaboré, nés dans les années 50, qui avaient été membres d'Occident et puis ensuite de Ordre Nouveau et qui était aussi parmi les créateurs du Front National. Donc le RN est vraiment un parti qui a été créé, qui a cette particularité, c'est pas le seul, hein. On pourrait parler aussi du FPE autrichien, mais parmi des partis d'extrême droite européens, qui est directement, qui est en droite ligne, hein, l'héritière du fascisme et du néo-fascisme français. Alors, ça ne veut pas dire que tous les partis d'extrême droite dans le monde et en Europe sont issus directement du fascisme historique. On a des cas où c'est pas le cas. En réalité, je dirais que si je faisais un paysage des extrêmes droites au niveau mondial, on a trois cas. On a ce cas-là, donc des partis qui sont directement héritiers du fascisme historique, pour lesquels, pour moi, en tout cas en termes d'héritage, la question ne se pose pas de savoir s'ils ont des liens avec le fascisme. Ils en ont. Leurs cadres ont été, en quelque sorte, éduqués politiquement dans cet héritage-là. C'est le cas de Marine Le Pen. Hein. Marine Le Pen arrive au Front National. Évidemment, elle est la fille du chef, mais elle devient militante à 18 ans en 1986. Et elle est très familière de toute cette histoire-là, de tout cet héritage-là, intellectuel, idéologique, politique, stratégique, etc. Donc on a ces partis-là qui, presque toujours, donc c'est le cas, donc je le disais, du parti au pouvoir en Inde, c'est le cas du Fratelli d'Italia en Italie, du FN en France, du FPE autrichien, etc., bon, qui sont héritiers de cette histoire-là, qui sont presque tous engagés dans une stratégie depuis longtemps de respectabilisation. Le Front National, en fait, dès 72, c'est déjà le produit d'une stratégie de normalisation. C'est déjà l'idée, pour ceux qui créent le FN en 72, créons une vitrine électorale, qui va nous permettre par ailleurs d'unifier les différentes chapelles de l'extrême droite, mais créons une vitrine électorale pour sortir de la marginalité politique. Donc dès son origine, le Front National avait ce projet que Marine Le Pen a fait et que Bruno Maigret a approfondi dans les années 80-90 et que Marine Le Pen a encore approfondi dans les années 2010. Essayons de respectabiliser les idées en les modernisant, en faisant cette stratégie qu'on appelle parfois de la cravate, hein, de paraître respectable, de bien s'habiller, d'essayer de bien parler, d'être poli, d'avoir l'air raisonnable et respectable, de dédiabolisation, hein, de dédiaboliser les idées d'extrême droite, les idées racistes, les idées xénophobes, etc., réactionnaires, bon, pour sortir d'une situation de marginalité, pour mettre à distance le stigmate dans l'esprit des gens associés au fascisme, au nazisme, etc. Bon. Par ailleurs, une situation de marginalité qui a aussi pu être une source, une forme, disons, conférer initialement une forme d'attrait, quoi. Il y a des gens qui sont venus au FN parce que justement, ça apparaissait comme une force anti-système, détestée par les autres, diabolisée, etc. Bon. Mais Marine Le Pen a bien compris qu'il ne pourrait pas aller plus loin que 10-15% s'il restait sur ce créneau-là uniquement. Bon. Donc voilà, donc ça c'est les partis qui ont vraiment, pour se rapprocher du pouvoir, hein, ont besoin, pour attirer à eux en quelque sorte des clientèles électorales plus larges, plus diverses, etc. Pour par exemple qu'il y ait plus de femmes qui votent pour le Front National, puisque c'était un des problèmes qu'ils avaient il y a 30 ans, c'est que les hommes votaient assez nettement plus que les femmes votaient peu pour l'extrême droite, pour que des personnes LGBT votent pour l'extrême droite, pour que des personnes de certaines minorités en tout cas votent pour l'extrême droite, eh bien il faut modifier en partie le discours, il faut l'aseptiser, il faut le reconfigurer, etc. D'où des stratégies qui sont, par exemple, je le dis en passant, hein, mais par exemple le fémonationalisme, comme on l'appelle maintenant, c'est-à-dire une manière d'instrumentaliser les droits des femmes, ou la défense des droits des femmes, d'instrumentaliser la nécessaire lutte contre les violences sexistes et sexuelles à des fins racistes, en disant, bien sûr, il y a des violences sexistes et sexuelles, mais en gros, les coupables, ce sont les immigrés. Ce sont eux qui agressent nos femmes, ou nous agressent, nous, les femmes françaises, etc. Toute la stratégie qu'on voit autour d'un groupe comme qu'on appelle parfois féminisme, mais il ne faut surtout pas dire ça, c'est un groupe féminin d'extrême droite qui est le groupe, le collectif Némésis, mais qui vont instrumentaliser la cause, en quelque sorte, des femmes et de la lutte contre l'oppression des femmes, à des fins, souvent, bien souvent, islamophobes, d'ailleurs, puisqu'en disant les immigrés, c'est souvent, par ailleurs aussi, l'islam et les musulmans qui sont ciblés spécifiquement. L'instrumentalisation de la lutte nécessaire, ô combien nécessaire, contre l'antisémitisme, en disant aux populations juives de France, vos véritables ennemis, c'est pas nous, nous avons rompu avec ce que nous étions en quelque sorte. D'ailleurs, il le dit pas, Bardella a dit, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Ah bon ? Il a été condamné à de très nombreuses reprises pourtant. Et par ailleurs, il n'y a pas de mystère, enfin, il suffit de reprendre les différentes citations très connues de Jean-Marie Le Pen. Bon. Mais ils disent, nous ne sommes pas, nous n'avons jamais été vraiment antisémites, les vrais antisémites, ceux qui vous menacent, ce sont les immigrés du Sud global, ce sont les musulmans, etc. Là encore, c'est vraiment des stratégies pour élargir le socle électoral. Hein. Ils ont bien compris que s'ils restaient sur le socle des années 80-90, bon, ils feraient 15-20% au maximum et ils ne parviendraient jamais au pouvoir. Bon. Donc ça, c'est les partis de l'extrême droite historique. Après, au niveau mondial, il y a d'autres partis d'extrême droite qui, en quelque sorte, incarnent la tendance, les dynamiques fascistes ou de fascisation, qui sont des partis, en fait, en réalité, des courants issus de la droite conservatrice, des partis qui vont s'extrémiser. Parfois du fait de la concurrence avec des mouvances d'extrême droite, parfois parce que vous avez des mouvances d'extrême droite qui vont s'insérer dans ces partis. Ça a été le cas du Parti républicain aux États-Unis, où on a tout le mouvement autour du Tea Party d'abord, autour des gens qui contestaient l'élection d'Obama, donc Trump, hein, dès le départ. Hein, Trump s'est fait connaître un peu plus tard. Avant, mais politiquement, il est rentré dans le jeu politique au début des années 2010 en contestant l'élection d'Obama, en disant qu'Obama avait été pané sur le territoire états-unien, etc. Bon, peu importe, c'était un espèce de mouvement conspirationniste. Bon, ils sont rentrés dans le Parti républicain, ils ont radicalisé, extrémisé le Parti républicain jusqu'à parvenir à imposer Trump, à faire gagner la primaire des républicains en 2016 par Trump, et de transformer. Aujourd'hui, Sylvie Laurent, l'historienne des États-Unis, dit que le Parti républicain, et je pense qu'elle a raison, est le principal parti d'extrême droite d'Occident, même si effectivement il est souvent classé à droite historiquement. Aujourd'hui, si vous regardez les discours, le programme et la pratique du pouvoir de Trump, c'est évidemment un parti d'extrême droite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le débat, éventuellement, c'est à quel point ça ressemble ou non au fascisme de l'entre-deux-guerres. Ok, mais c'est un parti d'extrême droite. Bon. Vous ne pouvez pas avoir un président qui dit les immigrés somaliens aux États-Unis sont des déchets humains. Réclamer en permanence, dire que l'immigration empoisonne le sang de la nation américaine, renforcer les moyens d'une police de l'immigration extrêmement brutale, violente, et l'envoyer contre toute forme d'opposition, donc c'est le cas de la police ICE aux États-Unis, sans qu'on puisse caractériser en quelque sorte ce parti comme un parti d'extrême droite. Bon. Mais il y a d'autres cas. Il y a le cas de Erdogan en Turquie, par exemple, qui est quelqu'un qui vient de la droite et qui n'est pas au départ un dirigeant d'extrême droite, hein, qui vient de la droite, qui est un parti de droite, hein, son parti, l'AKP, et qui connaît, de même que Orban, par exemple, en Hongrie, qui vient de la droite libérale, et qui vont connaître une extrémisation au cours des 15 dernières années, jusqu'à aujourd'hui, en réalité, incarner des forces d'extrême droite. Orban, par exemple, a été même exclu du parti son parti a été exclu du Parti populaire européen, du parti de la coalition de droite européen au Parlement européen. C'était les cas du Likoud de Netanyahou, si on veut. Aujourd'hui, évidemment que Netanyahou et le Likoud sont des partis d'extrême droite qui, par ailleurs, mènent des politiques de génocidaires, des politiques de nettoyage ethnique en Cisjordanie, en intensifiant la colonisation, en menant des guerres impérialistes dans toute la région, en faisant des frappes au Liban, qui ont tué encore 3000 personnes dans la dernière période, en Iran, en Syrie, etc. Bon. Donc on a ce deuxième cas, et je pense qu'il faut l'intégrer quand on réfléchit à l'extrême droite aujourd'hui au niveau mondial. C'est pas que les partis issus de l'histoire du fascisme historique, genre le FN, Fratelli d'Italia, etc. C'est aussi des partis de ce type-là. Des partis qui viennent de la droite, comme le Parti républicain états-unien, ou comme l'AKP d'Erdogan, comme le Likoud, ou comme le parti d'Orban, mais qui sont aujourd'hui des incarnations réelles de ce qu'est l'extrême droite et de ce que sont les tendances à la fascisation au niveau mondial. Et enfin, on a des partis qui sont nés beaucoup plus récemment, qui ne sont pas issus de la droite traditionnelle, qui ne sont pas non plus issus du fascisme historique, mais qui sont à l'évidence des partis d'extrême droite, voire des partis néo-fascistes. Je pense ici notamment à l'AFD en Allemagne, hein, qui est un parti de création récente, hein, des années 2010, qui au départ commence comme une espèce de scission un peu eurosceptique ou eurocritique de l'Union européenne en Allemagne, une scission de la droite traditionnelle, et qui va se radicaliser, s'extrémiser, notamment en rencontrant des mouvements islamophobes, Pegida, je pense aussi à Vox en Espagne, qui est un parti aussi créé récemment, mais très violemment raciste, xénophobe, anti-immigré, masculiniste, homophobe, etc. Ou Chega au Portugal, qui en 7-8 ans, sa création est passée de 0%, enfin l'extrême droite au Portugal est passée de 0% à plus de 20%, et avec un dirigeant qui se prend pour le Trump portugais, etc. Donc ce que je veux dire en disant tout ça, c'est que quand on veut caractériser les partis d'extrême droite aujourd'hui et poser la question de leur rapport au fascisme, il n'y a pas. Ce qu'il faut regarder, à mon avis, c'est pas simplement et même pas principalement, est-ce qu'il y a en leur sein des gens qui se réclament explicitement du fascisme ou du nazisme, etc. Parce que la plupart d'entre eux, et notamment de leurs dirigeants, sont suffisamment intelligents, ou en tout cas ne sont pas suffisamment stupides, plutôt, pour ne pas apercevoir que s'ils se réclament explicitement d'une manière ou d'une autre, ou s'ils envoient des signaux trop explicites de continuité avec le fascisme, avec le nazisme, avec tout ce que ces mouvements ont produit dans l'entre-deux-guerres, notamment le génocide des Juifs d'Europe, eh bien, ils seront décrédibilisés et ils ne pourront pas parvenir à leur fin, c'est-à-dire parvenir au pouvoir. Et donc, il faut regarder au-delà de est-ce qu'il y a dans leur sein des partis, des gens, des courants qui se réclament explicitement du fascisme. Il faut regarder quelles sont leurs stratégies, quels sont leurs discours, quels sont leurs programmes, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir, etc., etc. Pour en revenir à la question de pourquoi c'est une question, pourquoi on se remet à parler de fascisme, il y a ce paysage que j'ai essayé de rapidement brosser sur ces extrêmes droites en progression. Ce qui n'était pas forcément, je veux dire, évident. Il y a 10 ans, on pouvait se demander, il y a 15 ans, après la crise financière et économique de 2007-2008, ce n'était pas évident, vers 2015, par exemple, que c'était l'extrême droite qui allait tirer, en quelque sorte, les marrons du feu de la crise économique, sociale, environnementale, etc. Hein. Je rappelle, il y a 10 ans, il y avait eu la progression de Podemos en Espagne, de Syriza en Grèce, de Corbyn en Grande-Bretagne, sur des lignes, disons, anti-néolibérales, etc. L'émergence de Sanders, de Bernie Sanders aux États-Unis, de la France insoumise, de fait qu'elle avait fait 20% en 2017 à l'élection présidentielle. Donc c'était pas évident que ceux qui allaient, prendre une longueur d'avance, ce serait forcément l'extrême droite. Bon, de fait, il faut regarder la situation froidement et voir qu'ils ont actuellement, au niveau mondial, au niveau français aussi, une longueur d'avance. Alors, pour la deuxième raison que je voulais évoquer sur pourquoi c'est important de parler de fascisme, c'est que le danger, il faut reconnaître que le fascisme constitue un danger d'un type tout à fait particulier. Le danger fasciste, en quelque sorte, si on le reconnaît, si on estime qu'il y a un danger fasciste, ça élève en quelque sorte les enjeux. Le danger, c'est pas simplement, si on estime qu'il y a une dynamique de type fasciste, qu'il y a des forces fascisantes ou néo-fascistes, etc., en face, qui peuvent parvenir au pouvoir, qui peuvent aller au bout de leurs projets, etc. Le danger, c'est pas simplement la reconduction des politiques, en quelque sorte, auxquelles, malheureusement, on est habitué depuis les années 80, c'est-à-dire des politiques néolibérales, des politiques un peu plus répressives, progressivement, etc. Bon, c'est pas simplement la reconduction des inégalités existantes, des rapports de domination, d'exploitation, etc., que l'on connaît, malheureusement. Le danger, c'est un danger de type mortel. Alors, il faut le préciser, c'est un danger de type mortel à différents niveaux. C'est un danger mortel d'abord pour les minorités, qui sont les premières ciblées, les minorités racialisées, les minorités de genre, les minorités sexuelles, pour leurs droits conquis, même s'il y en reste beaucoup de droits à conquérir, mais pour les droits déjà conquis, et évidemment pour les mouvements féministes, hein, pour les droits conquis, mais aussi pour leur existence même, en tant qu'organisation, en tant que mouvement, mais même en tant que personne. On le voit, ces mouvements au pouvoir, ça veut dire plus d'agressions, plus de morts, du côté notamment des minorités. C'était le cas au Brésil sous Bolsonaro, on a vu une explosion des violences à l'encontre des minorités, notamment des minorités de genre, etc. On le voit aussi particulièrement en Amérique latine sous cet angle-là, mais partout où ils arrivent au pouvoir, effectivement, en quelque sorte, ça élargit le bassin des gens qui se sentent autorisés et qui sont parfois encouragés, on le voit à travers les discours de Donald Trump, à s'en prendre directement aux immigrés, aux membres des minorités racialisées, aux membres des minorités de genre et sexuelles. Bon. Donc il y a déjà ce danger mortel. L'autre danger mortel, c'est pour évidemment les droits et les libertés publiques et les droits démocratiques, je dirais, élémentaires. Pas simplement le droit de vote. Souvent, en fait, on réduit la démocratie au droit de vote. Moi, je sais qu'Edoui Plenel avait sorti un bouquin récemment là-dessus pour insister sur ce point. Il a raison. La démocratie, c'est pas juste le vote et l'élection. Vous pouvez, d'ailleurs, il y a eu des dictatures qui se sont accommodées d'élections. Hein. Moi, je suis d'origine portugaise. Dans l'après-guerre, sous la dictature salazariste, il y avait en Élysée, au suffrage vaguement universel, le président de la République. C'était malgré tout une dictature tout à fait féroce. Bon, c'est vrai qu'un des candidats à l'élection qui avait fait un peu trop de voix, il a été assassiné quelques années après, Humberto Delgado. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est au-delà la démocratie, c'est par exemple le droit de faire ce qu'on fait là. D'être organisé syndicalement dans les syndicats indépendants du patronat et de l'État, qui peuvent avoir des libertés syndicales, la liberté de manifester. Je rappelle que, par ailleurs, dans ce que j'appelle le processus de fascisation, je fais entrer le constat qu'au cours des 10 dernières années, on a vu une explosion du nombre de manifestations tout simplement interdites, qui ne peuvent pas se tenir, manifestations anticoloniales, solidarité avec la Palestine, manifestation, et pas seulement tout à fait récemment, hein, le premier cycle d'interdiction de manifestation à une échelle importante, c'est 2014, été 2014, agression militaire israélienne, énième agression à Gaza avec des centaines, sinon des milliers de morts déjà à l'époque, et interdiction de nombreuses manifestations en France dès ce moment-là, sous Hollande, Valls, Macron. Donc voilà, menace pour les libertés de manifestation, de réunion, d'organisation, d'expression. On voit très bien comment, par exemple, notamment sur la question palestinienne, on a de nombreux militants et militantes, y compris syndicaux, y compris de la CGT notamment, qui ont été condamnés pour des tracts, pour des mots écrits sur une feuille, pour avoir rappelé des choses tout à fait basiques d'ailleurs. Droits historiques du peuple palestinien à vivre sur sa terre, etc. Bon, voilà, qui se prennent des procès pour soi-disant apologie du terrorisme. Mais c'est le cas de nombreux militants et militantes aujourd'hui, associatifs, syndicaux, politiques ou des collectifs pro-Palestine. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que je parle de processus de fascisation. Même si les forces fascistes ne sont pas au pouvoir, d'une certaine manière, les dynamiques de fascisation sont déjà en quelque sorte à l'œuvre. Donc voilà, le danger mortel, c'est le danger pour les minorités, le danger pour les droits démocratiques élémentaires, évidemment le danger mortel pour les conquêtes sociales des travailleurs et des travailleuses et de leurs organisations syndicales. Je pense qu'il n'y aura pas de Front National au pouvoir sans une remise en cause très brutale et qu'ils ont toujours théorisé de la sécurité sociale, par exemple. Pour eux, la sécurité sociale, c'est une aberration. Ils le disent d'ailleurs, ils ne le disent pas clairement, mais ils disent on va en gros en finir avec les cotisations. S'il n'y a plus de cotisations, il n'y a plus de sécurité sociale. Ils disent on va redonner leur argent aux Français. C'est ça qu'ils entendent. Hein. Redonner l'argent aux Français, c'est l'argent qui aujourd'hui va dans les caisses de la Sécu va aller dans les poches des Français. Ouais, mais en fait, autant dire qu'on abolit en quelque sorte la sécurité sociale tout de suite. Ils ne le disent pas parce qu'ils savent très bien que c'est impopulaire. Mais ça a toujours été dans le projet du Front National dès les années 70-80 de briser toutes les conquêtes du mouvement syndical, du mouvement des travailleurs et des travailleuses, et en particulier la sécurité sociale, mais aussi les services publics d'éducation notamment, et également le droit du travail. Bon. Et puis, évidemment, le fascisme, si on reconnaît qu'il y a un danger de type fasciste, on peut après discuter sur à quel point les différences entre le contexte de l'entre-deux-guerres aujourd'hui, j'imagine qu'on en discutera, c'est un danger mortel pour la gauche dans toutes ses composantes, gauche sociale et politique, je dirais, enfin, les syndicats, les mouvements de gauche, y compris pas forcément très radicaux, mais quand les fascistes sont arrivés au pouvoir, ils ont brisé toutes les gauches, les syndicats modérés et combatifs, les gauches réformistes et révolutionnaires, etc. Ils ont brisé tout espace de contre-pouvoir, toute forme de contestation, même partielle, qu'elle soit partielle ou radicale. Bon. Donc c'est un danger mortel pour nos organisations, pour notre capacité à nous organiser autrement que clandestinement. Parce qu'effectivement, je ne dis pas que ça arrive en 3 semaines, hein. Quand ils sont au pouvoir. Mais par contre, on voit très bien comment... Bon, prenons un cas concret, sous Orban, on verra comment les choses évoluent, puisqu'il a perdu. Mais en fait, il a perdu au profit d'un ancien de son parti. Donc, dans un État qui, en plus, en Hongrie, on parle de l'État Fidesz. Fidesz, c'est le nom du parti de Orban. En gros, le parti de Orban a colonisé l'État hongrois. Bon, donc, on va voir ce que celui qui a gagné va éventuellement faire dans les mois et années à venir. Mais dans la Hongrie de Orban, pas très loin, la Hongrie, c'est un pays de l'Union européenne, le droit de grève est totalement théorique. Il n'y a plus de grève pour l'essentiel depuis pas mal d'années, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. C'est un danger mortel sous tous ces angles-là, et pas simplement quand on dit c'est un danger pour la démocratie. Je pense que beaucoup de gens entendent « Ah, il n'y aura plus d'élections ». Bon, je ne pense pas que ce soit l'aspect en réalité le plus fondamental. Vous pouvez très bien avoir une société où il y a des élections, s'il n'y a aucune liberté publique, aucun pluralisme médiatique, etc. Aussi le parti essentiel des médias privés et évidemment, de fait, plus ou moins directement les médias publics, ils gagnent les élections. Hein, ils font des référendums sur les questions qui les... Ah, vous êtes pour ou contre l'immigration, vous faites une grande campagne médiatique pendant des semaines et des semaines pour dire que les immigrés sont un problème et l'immigration c'est un problème fondamental pour la société française, et vous gagnez votre référendum. Bon. Voilà, alors j'en viens à la question de... Déjà, j'espère que je ne suis pas trop long. Déjà, bon, sur ce qu'est le fascisme, compliqué cette question. Le fascisme existe notamment parce que le fascisme peut désigner pas mal de choses différentes. Le fascisme, ça peut désigner des idées, des théories en quelque sorte, ou des pseudo-théories. Par exemple, la pseudo-théorie du grand remplacement, pseudo-théorie conspirationniste, raciste, etc. Bon. Ça peut désigner des méthodes ou des pratiques. On parle parfois de méthodes fascistes, notamment les méthodes un peu miliciennes, quoi, la méthode de l'agression en escouade, qui était déjà la méthode des fascistes italiens dans les années 20, et en quelque sorte que réitère le moindre groupuscule qui se monte dans telle ou telle ville et qui va agresser en escouade des militants et militantes, des étudiants qui font un blocage de leur université pour protester contre une loi raciste qui multiplie par 10 les frais d'inscription pour les étudiants étrangers non communautaires, par exemple, puisque c'est ce qui est en ce moment à l'ordre du jour dans les universités. Donc ça peut être des méthodes, ça peut désigner évidemment des mouvements qui portent une idéologie fasciste ou un projet de type fasciste, et puis ça peut désigner des régimes. Bon. Et c'est vrai que si on s'intéresse à une des dimensions, on va dire des choses un peu différentes. Si on s'intéresse au régime fasciste, qu'on cherche à définir le fascisme à partir des régimes fascistes, on ne va pas forcément dire exactement la même chose ou insister sur les mêmes choses que si on s'interroge sur l'idéologie fasciste ou sur les mouvements fascistes qui ne sont pas au pouvoir, etc. Donc déjà, ça pose un peu une difficulté. Je voudrais faire une précision. Le fascisme, c'est pas un type spécifique de système économique. D'ailleurs que les fascistes aient pu prétendre en disant nous allons inventer quelque chose qui ne sera en quelque sorte une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. Ça n'a jamais existé. Les fascistes ont toujours géré très loyalement le capitalisme, n'ont jamais remis en cause du tout d'ailleurs la propriété privée des grands moyens de production, des entreprises, etc. En réalité, le fascisme au pouvoir a toujours été une variété particulièrement brutale et en réalité tyrannique, ultra-autoritaire de capitalisme. Bon. Partout et toujours, quand les fascistes ont conquis le pouvoir, ils ont non seulement maintenu les hiérarchies sociales, notamment de classe, mais aussi de genre et de race, mais ils ont cherché à rétablir, à augmenter les taux de profit, en intensifiant l'exploitation de la force de travail, l'extraction de la plus-value par le capital, en renforçant, je le disais, l'oppression des femmes, même si évidemment l'oppression des femmes existe en dehors du fascisme, elle a pris des formes extrêmement brutales, régressives et violentes dans tous les régimes fascistes, et bien entendu en renforçant, en intensifiant l'oppression raciale, qui est allée notamment à l'encontre des juifs et des juives d'Europe, jusqu'aux politiques génocidaires, dans l'entre-deux-guerres, sans même parler des politiques eugénistes mises en place par les fascistes allemands au nom de la pureté ou de la purification de la race, etc. Pour revenir à ce qu'est le fascisme, je disais qu'il peut désigner une idéologie ou un certain type de mouvement politique ou un certain type de régime. Je viens un peu de dire donner quelques éléments sur ce qu'est le fascisme en tant que régime. Un état, en réalité, on pourrait dire un état capitaliste d'exception. Je reprends une expression d'un grand philosophe qui s'appelait Nikos Poulantzas. Hein. Un état capitaliste qui reste capitaliste, qui défend les rapports sociaux capitalistes, les rapports de propriété capitaliste, qui cherche à rétablir et à augmenter les taux de profit, comme tout gouvernement capitaliste en quelque sorte, mais qui le fait avec des moyens en quelque sorte extraordinaires, c'est-à-dire non démocratiques, brutaux, violents, etc. Bon. Mais donc un état fasciste d'exception en quelque sorte, pas un état fasciste, un état capitaliste d'exception, excusez-moi. Pour aller plus loin sur ce qu'est le fascisme, il faut avancer à mon avis sur ce qu'est le fascisme en tant qu'idéologie mais aussi en tant que mouvement. En commençant par une évidence, bien sûr le fascisme, je l'ai dit, repose sur un très haut degré de répression, de violence, de coercition physique, de surveillance, de contrôle policier, d'arbitraire étatique, ça c'est évident. Mais le fascisme c'est pas seulement une espèce de bâton qu'utilise à un moment donné la classe dominante pour taper sur les mouvements populaires, les syndicats, les minorités, etc. C'est pas simplement un instrument ou une intensification de la répression. C'est pas juste une volonté de taper plus fort sur les minorités, la gauche, les mouvements sociaux, etc. C'est tout ça, évidemment, mais si c'était que ça, d'une certaine manière, on comprendrait pas, à mon avis, la fonction du fascisme. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, pour faire ça, les classes dominantes ont déjà quelque chose. C'est-à-dire les appareils de répression de l'État. Ils ont déjà la police et l'armée. Si le fascisme, ça servait juste à taper plus fort sur les syndicats, les mouvements sociaux, la gauche, d'une certaine manière, on ne comprendrait pas très bien la fonction du fascisme. Pourquoi les classes dominantes confieraient en quelque sorte, comme ils l'ont fait, hein. Chapoutot, par exemple, le montre très bien dans le cadre de l'Allemagne nazie, hein. Les classes dominantes donnent le pouvoir aux nazis à un moment donné, en janvier 1933. Si l'objet, c'était juste de foutre sur la gueule, excusez-moi l'expression, des syndicats allemands et de la gauche socialiste ou communiste, bon, ils auraient pu envoyer la police et l'armée et briser tout ça. Bon. Donc le fascisme, c'est pas que la dimension répressive, la dimension bâton, en quelque sorte, avec lequel on tape sur les mouvements d'émancipation, les mouvements populaires, etc. Le fascisme se réduit pas à ça, il s'agit en réalité aussi d'un certain type de projet politique, différent du projet politique traditionnel des droites et des bourgeoisies en réalité, qui est aussi en général entre la droite conservatrice et la droite libérale. C'est un type de projet politique qui va chercher à emporter en quelque sorte l'adhésion des masses, en tout cas à avoir l'oreille des masses ou d'une partie des masses, à séduire, à s'implanter dans toutes les classes sociales, la paysannerie, la classe ouvrière, la petite bourgeoisie commerçante ou d'artisan, y compris la grande bourgeoisie, évidemment, hein, qui va chercher à entraîner de larges segments de la population, électoralement, mais aussi dans la rue. Bon. Et pour cela, donc, le fascisme ne repose pas simplement sur des bandes armées, voire sur un appareil paramilitaire, même si le fascisme, historiquement, s'était doté de ça, de bandes armées, des squads paramilitaires, etc. Le fascisme va reposer sur une idéologie singulière, une certaine vision du monde qui va lui permettre, en quelque sorte, de s'adresser aux masses, qui va lui permettre de lancer, en quelque sorte, un appel aux masses, à partir de cette vision du monde, ils vont chercher à séduire en quelque sorte largement et en proposant quelque chose d'autre que simplement une dictature totalitaire. Personne ne peut être élu ou personne ne peut séduire les masses en disant oui, on va instaurer une dictature totalitaire, vous n'aurez plus aucune liberté de vous organiser collectivement. Évidemment, ils ne vendent pas ce projet-là. Bon, ils vont vendre autre chose. Alors, de quoi est fait ? C'est pour ça que si on veut comprendre ce qu'est le fascisme assez fondamentalement et sa capacité de séduction, parce que c'est ça, c'est pas juste une dictature militaire. Les militaires, ils cherchent pas à séduire. Dans le Chili de Pinochet ou dans l'Espagne de Franco, ils prennent les armes, enfin, ils prennent les armes qu'ils ont, d'ailleurs, ils prennent le pouvoir contre un gouvernement démocratiquement élu. C'était le cas contre Allende au Chili en 73, c'était le cas contre le Front Populaire Espagnol dans l'Espagne de 1936. Les militaires, ils font pas de détails. Et ils cherchent pas à faire dans l'idéologie ou dans la séduction. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est un problème militaire. Les fascistes, Il pose des problèmes militaires de violence, etc., ça c'est sûr, mais il pose un problème notamment au mouvement ouvrier et aux gauches, au sens où ils vont sur le terrain de la politique, et de la politique de masse. Ils veulent séduire les masses en faisant concurrence, y compris au mouvement ouvrier, à la gauche, socialiste, communiste, etc. Bon. Et ils vont le faire donc à partir de leur idéologie propre, de leur vision du monde. Alors de quoi est faite cette vision du monde? De quoi est faite cette idéologie? Je dirais que, sur quoi ils jouent en quelque sorte? D'abord ils jouent sur quelque chose qui en soi n'est pas forcément fasciste, évidemment, et qui en plus peut parler à beaucoup de gens. C'est quoi? L'obsession du déclin. Ça va, rien ne va plus. Ça peut parler à plein de gens. Moi, je suis prof, je peux penser que rien ne va plus. Hein. Dans les salaires, dans les conditions de travail, dans plein de trucs qui se passent dans l'institution scolaire, je peux me dire, ah effectivement, c'était mieux avant. L'obsession du déclin, ou si je bosse dans l'industrie, bah, évidemment, dans l'industrie automobile, quand je vois toutes les usines qui ferment depuis 20 ans ou 30 ans, bien entendu que je peux avoir ce sentiment de déclin, de décadence, de délitement, de décomposition, etc. La différence, c'est qu'évidemment, l'extrême droite va le problématiser différemment. Va le politiser différemment, ce sentiment de déclin, de décomposition, de décadence. Ils vont le positionner, le problématiser, le politiser comme déclin de notre nation. Déclin de notre nation française, en France. Déclin de notre civilisation européenne, menacée par... déclin de la race, pour certains courants les plus racialistes, ou pour les courants fascistes, notamment d'entre-deux-guerres, et notamment pour les nazis. Ils vont accrocher en quelque sorte ce sentiment de déclin sur lequel ils s'appuient, de déclin, de décadence, de décomposition, ils vont l'articuler à ce que j'appellerais une paranoïa civilisationnelle raciale, qui permet de trouver en quelque sorte un coupable commode, et en quelque sorte une cible logique, à un coupable commode de cette décadence, de ce déclin, de cette décomposition, notamment en postulant que l'immigration de masse, la submersion migratoire, etc., donc l'immigration serait une submersion, serait un envahissement, serait une invasion, qui engagerait en quelque sorte rien moins qu'une destruction de ce que nous sommes. Vous voyez, on est déjà assez loin de « Ah, le déclin, oui, nos conditions de travail, nos salaires, etc. Bon, » c'est une manière différente, par rapport à ce que nous, on pourrait faire, d'une certaine manière, de problématiser et de politiser ce sentiment qu'on peut avoir, que beaucoup de gens peuvent avoir, que les choses vont de mal en pis, en quelque sorte. Mal en pis pour nous, mais mal en pis pour nos enfants, etc. Bon, sur le plan social, environnemental, etc. Mais bon. Donc ils vont le positionner, le problématiser, le politiser sous l'angle de notre communauté organique, notre nation, ce que nous sommes, ce qui fait notre essence en quelque sorte, est en danger de destruction par l'immigration de masse, par l'invasion migratoire, etc. Toute expression qu'ils utilisent depuis très longtemps. Troisième point, je dirais, dans cette vision du monde fasciste, très important également, il y a cette haine présent dans tous les mouvements d'extrême droite, en réalité, au-delà même du fascisme, qui est présent par exemple chez les militaires d'extrême droite, hein, une haine absolue de l'égalité et de l'ensemble des mouvements qui portent une exigence d'égalité. Évidemment, le mouvement syndical a toujours été haï par les fascistes et toutes les extrêmes droites. Je crois que j'ai pas besoin de développer, mais évidemment, tous les mouvements qui portent une exigence d'égalité. Le mouvement féministe, le mouvement antiraciste, le mouvement LGBT en particulier. Parce que ces mouvements dissoudraient en quelque sorte les hiérarchies naturelles et mettraient en péril les normes traditionnelles selon lesquelles nous avons toujours vécu. Donc évidemment, là encore, ce serait le péril, ce serait la destruction de ce que nous sommes, de notre communauté, de notre nation, parce que les règles qui ont gouverné notre nation, etc., sont contredites en quelque sorte par ces mouvements. Bon, on voit bien par exemple comment, alors ça dépend des pays, mais comment dans les Amériques, Amérique du Nord comme Amérique du Sud, l'extrême droite se constitue, et l'extrême droite néofasciste se constitue beaucoup sur justement le traditionnalisme, le masculinisme, la transphobie, l'homophobie, peut-être plus violemment et de manière plus explicite que par exemple en France. Où par exemple le racisme, la xénophobie anti-immigrée, l'islamophobie jouent un rôle peut-être plus important. Dernier point sur la vision du monde fasciste que je voudrais développer, je pourrais en développer un ou deux autres, mais je vais m'arrêter là sur ça, c'est ce que j'appellerais, parce qu'en fait c'est en quelque sorte, c'est à partir de là, à partir de cette vision d'une, ils vont développer en quelque sorte un projet qui les singularise de mon point de vue, qui est ce projet de régénération nationale, de faire régénérer notre communauté, la nation ou la civilisation européenne, de la faire renaître sous condition, enfin en postulant que la seule manière de faire renaître notre nation, notre civilisation, serait de l'épurer, de la purifier en quelque sorte des éléments jugés ou considérés comme indésirables, donc aussi bien les minorités, notamment les minorités raciales, immigrés, descendants d'immigrés, post-coloniaux en particulier, etc., mais aussi les groupes indésirables, ce sont les gauches, les mouvements de contestation, etc., qui fracturent l'unité naturelle, en quelque sorte, de la nation, etc. Donc on pourrait résumer pour moi, à partir de ça, le projet fasciste à travers cette idée de régénération par purification, de renaissance nationale ou civilisationnelle par épuration. Bon, du corps social. Pour que la nation française renaisse de ses cendres, pour que la France redevienne la France, pour prendre une formule de Éric Zemmour, et elle peut le faire, mais elle peut le faire uniquement à condition de se purger, de s'épurer, de se libérer des minorités agressives ou tyranniques. Il parle beaucoup de tyrannie des minorités, hein, c'est une sorte d'expression automatique, du langage automatique de l'extrême droite d'aujourd'hui. Hein, il faudrait se libérer de minorités tyranniques qui voudraient imposer leurs lois, qui voudraient imposer leur domination à une majorité silencieuse, à une bonne majorité, la France qui se lève tôt, la France laborieuse, paisible, qui ne se plaint pas, qui travaille dur, etc. Bon, donc ces minorités, en particulier les minorités religieuses, ethno-raciales, de genre, sexuelles, etc. Il faudrait la libérer, je le disais, évidemment aussi des militants et des organisations de la gauche sociale et politique qui seraient justement coupables d'être à la fois solidaires des minorités, mais aussi, je le disais, qui serait coupable de diviser la nation à partir, par exemple, de la lutte des classes. Hein, quand vous menez la lutte des classes, évidemment, vous n'êtes pas dans la mythologie nationaliste de « on est tous dans le même bateau », de l'unité fondamentale de la nation, etc. Voilà. Mais, je dirais, la particularité du fascisme, ce qui lui donne une bonne partie de son attrait, peut-être dernier point sur ça, c'est de se présenter, je dirais, à la fois comme une force anti-système, et en même temps de prétendre qu'il serait en quelque sorte la seule force capable de rétablir l'ordre et la loi. Espèce de cocktail assez explosif, qui peut paraître contradictoire d'un point de vue de gauche, en quelque sorte, ou d'une gauche minimale, consisterait à dire l'ordre social est injuste, il faut le transformer. Alors certains vont dire qu'il faut le transformer progressivement, par des réformes, etc. D'autres vont dire qu'il faut le transformer radicalement, par des moyens révolutionnaires. Je ne tranche pas ce débat stratégique classique. Mais eux, si vous voulez, ils font cohabiter une vision qui est prétendument anti-système. Il faut se débarrasser des élites décadentes, mondialistes, etc., mais aussi des fauteurs de troubles de la gauche radicale, des syndicats, mais aussi des minorités, etc. Donc c'est l'aspect anti-système qu'ils font cohabiter avec un aspect ultra-conservateur, qui est il faut en quelque sorte employer les moyens de masse pour rétablir l'ordre naturel, pour rétablir les hiérarchies naturelles, pour restaurer un monde ancien, en quelque sorte. Hein, le modèle, l'utopie que mobilise l'extrême droite aujourd'hui est une rétro-utopie. Il s'agit de revenir à la France. Alors, on ne sait pas trop, d'ailleurs, la France, chez Zemmour, c'est limite la France d'avant 1789. Pour Marine Le Pen, ce serait sans doute la France d'avant 1968, en gros, qui était aussi, d'ailleurs, la mythologie sarkozyste de 2007. On va revenir à tout ce qui a merdé en France depuis mai 68. Hein. Il y avait un aspect, évidemment, pour moi, enfin, le processus de fascisation, il commence assez largement dans le champ politique avec quelqu'un comme Sarkozy hein, dans les années 2000. Hein. Et donc ça donne ce cocktail explosif entre ultra-conservatisme, il faut restaurer l'ordre ancien naturel, les hiérarchies, etc. Bon, et le parti anti-système, quoi, le parti qui va faire la rupture avec les voilà, ça donne ce caractère si particulier au fascisme qui est différent de la droite, qui est d'être une révolte réactionnaire. De mobiliser, et d'ailleurs de mobiliser à ce profit à la fois des idées, mais aussi des affects, des émotions qui sont, pour certains, associées à l'idée de changement, de rupture, de transformation. Et beaucoup de gens aspirent à une rupture, à une transformation, parce que, précisément, les choses ne vont pas. Enfin, je pense que je vous fais pas découvrir quelque chose en disant ça, mais les choses, pour des millions et des millions de gens en France, évidemment, les choses ne vont pas, et donc supposent un changement. Donc l'extrême droite cherche à s'adresser à ça, par ses discours, à s'adresser à ce besoin, à ce désir. Vraiment, c'est vraiment de l'ordre de l'affect, hein, de ce désir que quelque chose change. C'est ça, c'est la différence avec la droite traditionnelle qui dit il faut que les choses restent en l'état, en quelque sorte. Eux, ils prétendent en tout cas vouloir que les choses changent. Mais en fait, il faut que les choses changent pour qu'elles redeviennent ce qu'elles étaient dans un passé fantasmé et mystifié, en quelque sorte. Hein, puisque, évidemment, le passé qu'ils mystifient des années 50-60, c'est aussi un passé. Je ne sais pas si être une femme dans les années 50-60, c'est particulièrement une utopie particulièrement désirable pour beaucoup de gens aujourd'hui. L'école des années 50, une école où 5% des enfants d'une génération avaient le bac et où 98% des enfants d'ouvriers n'avaient pas le droit de faire des études secondaires. Bon, voilà. Donc c'est cette rétro-utopie-là qui le manifeste. Et évidemment, c'est totalement mystifié parce qu'en réalité, si vous présentez véritablement les choses, personne, enfin, ou très peu de gens ont envie de retourner à cet état-là, évidemment. Mais l'idée, quand même, que c'était mieux avant, ça exerce un effet de, malgré tout, de séduction dans une situation où effectivement les choses vont effectivement de mal en pis sous bien des aspects. Et donc, ce projet de cette dimension de révolte réactionnaire, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, et je m'arrêterai là après, c'est vraiment une des dimensions qui permet au fascisme et au néo-fascisme d'avoir cette capacité de séduction à l'égard de classes sociales différentes. Parce que, d'une certaine manière, les bourgeois, les classes bourgeoises et leurs représentants politiques traditionnels, la droite traditionnelle, eux, ils vont en quelque sorte s'entendre avec l'extrême droite, ils vont faire des alliances avec l'extrême droite, partout, historiquement, dans l'entre-deux-guerres. Je veux dire, juste en parenthèse, hein, Mussolini et Hitler, quand ils arrivent au pouvoir, respectivement en Italie et en Allemagne, ils sont dans des gouvernements où la droite est assez largement majoritaire en termes de portefeuille ministériel. Hein. Mais je disais, partout en Europe aujourd'hui, l'extrême droite gouverne avec la droite. Bon. Donc ils vont réussir à séduire aujourd'hui les bourgeois. Je veux dire, Bardella et Marine Le Pen font des dîners régulièrement maintenant avec les très grands patrons, Bernard Arnault, etc. Ils vont s'entendre sur l'aspect réactionnaire, sur l'aspect on va restaurer les hiérarchies, pareil on va relancer l'accumulation du capital en brisant les syndicats, etc., etc. On va ouvrir des nouveaux terrains d'accumulation du capital. Si vous privatisez la Sécu, ah bah, les compagnies d'assurance privée, etc., eux, elles vont être absolument ravies, c'est leur projet depuis toujours. Bon. De mettre la main sur ces 500 ou 600 milliards d'euros qui partent dans la sécurité sociale et qui, de leur point de vue, évidemment, dorment du point de vue de la capitalisation boursière, évidemment, c'est pas une bonne chose. Bon. Donc eux, ils vont entendre ça. La bourgeoisie et d'une certaine manière les couches les plus favorisées ou privilégiées qui de plus en plus votent pour l'extrême droite. Hein, c'est là où ils progressent le plus dans la dernière période. D'autres vont entendre autre chose. Les couches moyennes ou petites bourgeoises vont entendre qui, elles, sont travaillées par autre chose, qui sont travaillées notamment par la crainte du déclassement. Et eux, ils ont peut-être pas encore tant perdu que ça, mais ils ont peur de perdre. Hein, et ça peut concerner une partie des salariés. Hein. Marx disait les prolétaires n'ont à perdre que leur chaîne. Bon, il y a beaucoup de prolétaires, de gens qui sont des prolétaires ou des travailleurs salariés, mais qui estiment qu'ils n'ont pas que leur chaîne à perdre, hein, qui estiment qu'ils ont quelque chose, ils ont gagné quelque chose, une situation un peu stable, une propriété, la propriété de leur logement. Et ça, on ne sait plus vraiment exactement la classe ouvrière dont parle Marx dans les années 1840. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur du déclassement, d'être déclassés, de perdre ce qu'ils ont, même si ça peut paraître pas énormément de choses, mais c'est quelque chose évidemment. Et donc eux, ils ont peur du déclassement et en quelque sorte l'extrême droite s'adresse à eux en disant si vous voulez ne pas être déclassé, en quelque sorte, bah, nous on va vous faire passer devant. Priorité nationale. En réalité, priorité nationale qui sonne toujours à l'oreille des gens comme une priorité raciale en réalité. Hein. On va vous faire passer, vous les vrais Français, vous les Français de souche, devant ceux et celles qui ne méritent pas en réalité d'être là ou qui ne méritent d'être là qu'en tant qu'invités et ne bénéficiant d'à peu près aucun droit. Aucun droit sur l'éducation, aucun droit en matière de santé. Donc vous allez passer devant en termes de logement social, en termes de bonne filière à l'école, en termes de santé, en termes d'emploi. Évidemment, vous devriez passer devant. Bon. Donc ils vont s'adresser à tous ces gens qui ont peur de perdre ce qu'ils ont. Et puis ils vont évidemment chercher aussi à s'adresser à des gens qui, aux fractions plus paupérisées, plus précarisées, mais aux fractions blanches en réalité de la classe travailleuse, de la classe ouvrière d'aujourd'hui, celles qui sont justement soumises à énormément de concurrence, à énormément de précarité, d'incertitude, d'inquiétude, qui sont aussi orphelines d'un projet politique alternatif du fait des déceptions cumulées des expériences de gauche depuis les années 80, Mitterrand, Jospin, Hollande, etc. Évidemment qu'il y avait toute une fraction très large du monde salarié qui n'y croit plus. Enfin, quant aux promesses qui sont faites par la gauche aux élections, et qui se dit, bah, essayons ceux qu'on n'a pas essayés. Alors, on les a déjà essayés à d'autres époques, on les essaye dans d'autres pays, on sait ce que ça vaut, en réalité, quand on réfléchit un peu, mais ça peut être séducteur de se dire, ah, en France, ils n'ont jamais eu le pouvoir, donc on va leur donner, puisque la gauche a trahi, la droite, on sait ce que c'est, bon, etc. Et donc, c'est par ce type d'appel, je dirais, par cette vision du monde, que le fascisme, le néo-fascisme, par ailleurs, plus largement, les mouvements d'extrême droite, peuvent parvenir à obtenir l'oreille, en réalité, de différentes couches sociales. Aujourd'hui, en fait, le FN, c'est un parti qu'on dit pas. Enfin, eux, ils se présentent comme le parti aujourd'hui des petits, de la classe ouvrière, du peuple. En réalité, ils recrutent électoralement dans toutes les classes sociales. Et de plus en plus, d'ailleurs, dans les classes favorisées aussi. C'est vrai qu'ils avaient, les cadres votaient moins que les ouvriers avant pour le FN. C'est encore le cas, mais c'est de moins en moins le cas. En quelque sorte, le différentiel s'est beaucoup réduit. Il y a beaucoup de bourgeois et de cadres du privé qui avaient voté par exemple Zemmour dans l'Ouest parisien ou dans le sud de la France en 2022 et qui en réalité aujourd'hui se sont déplacés vers ou des gens qui avaient voté Fillon en 2017, hein, puis Zemmour en 2022 et puis maintenant RN. Bon, donc c'est vraiment le type d'appel que lance aux masses le fascisme ou le néofascisme est très adapté pour justement trouver l'oreille de gens qui ont des situations radicalement différentes et opposées en réalité dans la structure sociale. Et donc pour gagner en quelque sorte ou élargir progressivement pour élargir leur audience. Et c'est aussi pour ça que pour toutes ces raisons que le fascisme ou le néofascisme ou l'extrême droite devient intéressante pour la classe dominante parce que il peut en quelque sorte prétendre réaménager la vieille domination du capital en justement en restabilisant la situation politique. Le problème qu'ont les classes dominantes en France, c'est pas qu'il y a une menace révolutionnaire. C'est pas le cas à ce stade. C'est pas voilà, il y a des mouvements, il y a de la contestation, etc. On l'a vu, il y a eu beaucoup de mouvements au cours des 10 dernières années en France, mais ils sont pas menacés dans leurs intérêts. Le problème qu'ils ont, c'est l'instabilité sociale et politique en France. Le fait que c'est devenu en partie ingouvernable, la Macronie n'a plus de majorité du tout depuis 2022, encore moins depuis 2024. Et donc ça, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour le business. Et je pense que la classe capitaliste, quand elle fait française, hein, le grand patronat, quand ils font des réunions avec le RN et quand ils quand ils ont modifié leurs attitudes vis-à-vis de l'extrême droite dans les dernières années, ce qu'ils voient comme profitable, parce que le FN c'est pas leur tasse de thé, en gros parce qu'ils pensent, en fait en vrai les grands patrons pensent que c'est des bouseux, enfin je veux dire pensent que c'est pas des gens de leur classe en vrai. Et c'est vrai qu'ils préfèrent Retailleau, ils préfèrent Wauquiez, etc. Bon, ils ont un peu un mépris social, ils avaient un mépris un peu vis-à-vis du FN, ça, mais ils le voient comme ils voient le RN comme un moyen de restabiliser la situation politique. Ils voient très bien que la seule manière de rendre la France gouvernable de leur point de vue, en tout cas c'est leur espérance, c'est d'aboutir à une coalition droite-extrême droite, et éventuellement, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème avec ça, sous la domination du RN, qui permettrait par ailleurs aussi de se lancer dans un projet de mater en quelque sorte les résistances populaires, notamment syndicales, et donc surtout de restabiliser la situation politique. Hein. Ils ont en quelque sorte beaucoup gagné avec Macron. Mais ce que Macron n'a absolument pas résolu, et bien au contraire, parce que notamment à travers tous ses discours méprisants et vis-à-vis des travailleurs, des syndicats, des classes populaires, etc., c'est qu'ils n'ont pas résolu le problème d'instabilité sociale et politique dans la société française. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'agenda aujourd'hui du patronat, c'est dans l'idée d'avoir une union des droits, de favoriser une coalition des droites qui irait en quelque sorte de la Macronie jusqu'au RN, sous la domination, sous l'hégémonie du RN, hein, c'est de parvenir à enfin, en quelque sorte, aller au bout du projet de destruction des conquêtes sociales et politiques, et notamment de destruction de la sécurité sociale. C'est pour ça que j'ai insisté dessus. Je pense que c'est vraiment l'étape d'après pour eux, l'étape à venir. Mais la seule manière de le faire, c'est d'avoir une large majorité au Parlement et d'entraîner en quelque sorte cette fraction des classes populaires et moyennes qui votent pour le RN, qui se reconnaît dans le RN, de l'entraîner derrière, à la remorque en quelque sorte, de ce projet de destruction néolibérale qui vise à aller au bout en quelque sorte de ce qui a été fait par les différents gouvernements successifs depuis les années 80. Ce qui supposera, et ils le savent, une sorte de saut qualitatif, en tout cas une montée encore, un regain encore de durcissement autoritaire. Le patronat, il lui suffit de constater ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années depuis l'hiver 95 pour voir que la moindre attaque un peu frontale contre la sécurité sociale engagera un nouveau cycle de conflictualité, de lutte de classe, de lutte syndicale, de lutte populaire à une échelle très vaste. Et donc il faudra en quelque sorte non seulement les moyens répressifs, ils les ont, en termes d'armes même, mais aussi en termes de dispositions légales, réglementaires pour la police, pour intervenir de manière de plus en plus brutale, arbitraire, etc. Ce qui leur manque actuellement, c'est la légitimité sociale et politique. Et ce qu'ils espèrent avoir avec le RN au pouvoir, c'est en quelque sorte une base sociale suffisamment large pour appuyer cette nouvelle étape dans l'offensive antisociale, antisécurité sociale, anti-travailleurs, anti-travailleuses. Voilà, je m'arrête là sur ce premier moment. Désolé, j'étais un peu long.